Donc, je suis en compagnie de Denis Duval, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Moncton, au campus d'Edmundston. Et hier, c'était jour d'élection. Les Néo-Brunswickois ont élu un nouveau gouvernement, un gouvernement majoritaire chez les progressistes conservateurs. Donc, Monsieur Duval, est-ce que ça vous surprend qu'on ait eu un gouvernement majoritaire progressiste conservateur?
Non, on s'y attendait parce qu'il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de gains pour avoir la majorité. Donc, avec les intentions de vote qui lui donnaient une petite avance, ça nous laissait préjuger que c'était possible, même s'il ne faut pas essayer de prédire le nombre de sièges à partir des intentions de vote. On savait que c'était dans l'ordre du possible.
Tout à fait. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est de voir un chef, le chef qui aurait été le chef de l'opposition officielle, M. Vickers, ne pas se faire élire.
Oui, ça c'est rare que les électeurs qui ont la chance de voter pour l'un des chefs de parti ne votent pas pour lui donner un siège à l'Assemblée législative. Lorsque ça arrive, généralement, c'est plutôt pour un parti, un tiers parti qu'on appelle. Donc, ce n'est pas pour le Parti libéral ou le Parti conservateur, mais pour un chef de parti de moindre importance. Donc là, le fait que ça arrive au Parti libéral, c'est assez étonnant.
Est-ce que c'est le signe que le Parti libéral a véritablement connu une grosse défaite?
Oh, c'est une grosse défaite. Une grosse défaite notamment parce qu'ils n'ont pas réussi depuis qu'ils ont nommé Vickers à la tête du parti comme chef. Ils n'ont pas réussi à le faire connaître. C'était une campagne très terne de sa part. C'était pas été tellement à l'offensive, ni en dénigrant le bilan des progressistes conservateurs, ni en présentant ce que lui voulait faire de façon positive. Et il y avait pourtant une belle opportunité pour lui, puisque Higgs s'est contenté souvent dans ses communications de vanter son budget de 2018, de vanter les décisions que le gouvernement avait prises en temps de pandémie. Lui non plus n'a pas fait une campagne en présentant énormément ce qu'il entend faire ces prochaines années. Donc, il y avait une opportunité, même si la campagne était coupée à 28 jours, puis ça, c'était un coup sale, dans le fond, légal, mais pas tellement fair play. Les libéraux ont complètement manqué leur coup avec leur stratégie de communication, d'insister seulement sur le fait que Vickers était capable de réunir les francophones et les anglophones à une même table.
Donc, finalement, est-ce qu'on peut accuser Vickers d'être l'unique responsable de cette défaite des libéraux?
Ah, il doit prendre une grosse responsabilité. Le fait qu'il y avait seulement 28 jours pour se faire valoir, ça, c'est pas sa faute. Le fait qu'il n'a pas réussi à prendre occuper plus de place dans les médias, il y a une responsabilité à prendre. Ça, c'est définitif. On ne peut pas tout mettre sur le dos de la COVID, là.
D'accord. Passons de l'autre côté maintenant, chez les progressistes conservateurs. Donc, le gouvernement progressiste conservateur qui a déclenché une élection pendant la pandémie. Comment ça se fait que les Néo-Brunswickois n'ont pas blâmé davantage le gouvernement Higgs ou ne lui ont pas fait payer cette décision de déclencher une élection à ce moment-là?
Moi, j'ai entendu des gens m'en parler, mais j'ai pas entendu de communication venant du parti de Vickers lui-même déplorant cela avec vigueur. Même hier, lors de la soirée électorale, on leur rappelait quelques fois que la campagne était courte, à 28 jours, mais je sais pas, ça n'a pas été finalement une question de l'urne. Moi, stratège pour un parti politique autre que le Parti progressiste conservateur, c'est certain que les premiers jours de campagne, ça aurait été martelé, remartelé, qu'il y a plein de campagnes très, très courtes et que c'était un geste plutôt antidémocratique. Et bien sûr, tu peux pas faire toute ta campagne là-dessus. Il faut une campagne positive aussi, proposer tes idées et ce que tu entends faire en tant que le premier ministre, ta formation est élue, mais en tout cas, ça aurait dû occuper plus de place dans le débat politique au tout début, et les libéraux ont décidé de jouer une autre carte, de jouer la carte du chef qui était réconciliateur, et à mon avis, ça n'a pas été payant.
D'accord. Pour ce qui est des Verts, on a obtenu 3 sièges, les mêmes 3 qu'on avait déjà avant la tenue de l'élection. On a gagné 3% du vote populaire. Est-ce qu'on peut parler de victoire? Est-ce qu'on doit parler de défaite, puisque certains s'attendaient à avoir plus de sièges verts?
C'est toujours une victoire pour un tiers parti, donc un parti qui est pas, qui arrive ni premier ni deuxième. C'est toujours une victoire que de pouvoir garder ses sièges et augmenter un peu son appui populaire. Parce que notre système majoritaire uninominal à un tour, le système électoral qu'on utilise, est vraiment désavantageux pour les partis qui arrivent troisième et quatrième. Donc, ça prend une concentration des voix dans certaines circonscriptions pour être capable de maintenir des sièges. Et généralement, après 2-3 élections, des partis souvent disparaissent parce qu'ils n'arrivent pas à maintenir leur soutien dans un tel système. Les gens se lassent de voter pour des candidats qui ne peuvent pas prendre le pouvoir. Donc, non, c'est maintenir, avec notre système électoral, maintenir 3 sièges, c'est bon. Puis je pense qu'ils ont accru un peu leur soutien. C'est bon, c'est même, ça va même dans le sens un peu inverse de ce que le système prédit, dans le fond.
D'accord. Pour ce qui est de l'alliance des gens, on prévoyait une chute, voire même être rayé de la carte. Finalement, ce n'est pas le cas. On a élu 2 candidats et bon, pour ce qui est du vote populaire, on a reculé un peu. On doit parler de victoire dans leur cas aussi?
Eux ont un candidat de moins, là. Donc c'est peut-être une victoire un petit peu plus petite, mais le fait qu'ils n'ont pas été rayés de la carte, oui, en quelque sorte, c'est une victoire. Je suis pas certain qu'à la prochaine élection, ils pourront maintenir deux candidats élus. Ça va dépendre de ce que les autres partis vont faire, bien sûr, hein. Il faut toujours analyser ça en termes relatifs, là, les gains des partis. Mais c'était un défi quand même là, pour eux de maintenir leurs appuis. Puis en début de campagne, les sondages semblaient dire que les électeurs les avaient quittés, mais finalement, dans 2 circonscriptions, ils ont été au rendez-vous.
Tout à fait. Est-ce que le fait que Michelle Conroy ait battu cette année Kevin Vickers dans sa circonscription et il y a 2 ans Bill Fraser dans sa circonscription n'annonce pas une certaine puissance, un certain appui pour ce parti-là?
Ou la candidate, hein? J'ai pas d'études à l'appui. Mais il y a quelque chose là sûrement analysé.
D'accord. Puis, vous l'avez vu comme moi, la carte électorale est assez divisée. Dans les circonscriptions plus francophones, elles sont plutôt rouges. Dans les plus anglophones, elles sont généralement bleues. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochaines 4 années? Est-ce que ça va être, selon vous, un débat autour de la langue entre les libéraux et les conservateurs?
Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que les conservateurs, s'ils veulent démontrer qu'ils sont véritablement un gouvernement provincial, devront tendre des mains et des ponts avec les électeurs de toutes les régions. Présentement, si on regarde les promesses qu'ils ont faites, les engagements de la plateforme électorale, bon, on ne sait pas où ce qu'ils veulent aller. Hein. C'est tellement vague que c'est un peu plate, même qu'une élection ait eu lieu et qu'on n'en sache pas plus sur les intentions du parti qui a gagné. On appelle ça en sciences politiques. Une élection sans mandat, hein, on ne sait pas. On les a élus, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils se sont pas avancés de façon précise. Donc, j'espère que lorsque ça se précisera, ce qu'ils veulent faire, ils vont tendre une main à tous les électeurs, quelle que soit la région ou leur langue. Inversement, le Parti libéral doit se restructurer les prochaines années et doit démontrer qu'il n'y a pas le parti des francophones, qu'il est le parti des néo-dubrunswickois. Donc, il devra, lui, essayer de prendre des décisions pour la prochaine élection, être capable d'aller chercher des circonscriptions dans les régions bleues, si on peut dire.
D'accord. Une dernière question. On parle souvent des conservateurs qui sont pas incapables, mais qui ont beaucoup de difficultés à aller chercher des sièges dans les régions plus francophones. Dans cette élection-ci, oui, ça a été le cas, mais ça a été le cas aussi pour les libéraux qui n'ont pas été capables d'aller chercher beaucoup de sièges dans les régions anglophones. Pourquoi, selon vous?
C'est pas une question de langue seulement. Hein. Moi, j'avais vu des résultats de sondage à un moment donné qui posaient des questions aux gens sur leurs valeurs politiques. Est-ce que le gouvernement doit intervenir ou pas dans le développement régional, mettre le budget, équilibrer le budget, les hôpitaux, l'éducation, donc toutes les questions de politique publique que l'on peut imaginer. Et on se rend compte que ce qu'on appelle les circonscriptions du Nord, les gens ont des valeurs plus à gauche, là, même si on n'utilise pas beaucoup ces termes-là au Nouveau-Brunswick, plus à gauche, et qu'au nord, il y a un certain bassin de circonscriptions qui sont plus à droite. Et lorsqu'on voit la province divisée comme ça, comme les résultats qu'on a en dernière élection, ça concorde assez avec cela. Et par contre, il y a un certain groupe de circonscriptions qui peut voter libéral, qui ne l'ont pas fait. Donc, il faudra que le Parti libéral, lorsqu'il fera sa prochaine son examen de conscience, essaie de voir qu'est-ce que ces circonscriptions-là, ce petit groupe de circonscriptions-là, veulent. C'est certain que leur but, c'est pas aller au Parti libéral, c'est pas aller séduire certaines circonscriptions qui ont toujours voté Parti conservateur, sauf l'élection où McKenna a gagné tous les sièges, parce que dans certaines circonscriptions anglophones, il y a eu une division entre le Parti progressiste conservateur et le CORD. Donc, il y a certaines circonscriptions qui sont des châteaux forts conservateurs, qui sont pas l'objectif du Parti libéral, mais il y en a quand même plusieurs où ils devront aller voir ce que les électeurs leur disent et peut-être s'enligner un tout petit peu plus vers ces électeurs-là pour être à la fois capable de gagner le Nord, mais aller gagner certaines régions plus en sud.
D'accord, c'est parfait. Bien, je vous remercie grandement d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Un peu long, par exemple. Je vous remercie. Au revoir.
Je vous remercie. Au revoir.